11, tais-toi. Sur Nostalgie, Jean-Luc Reichmann.
Salut Jean-Luc.
Oh Quentin, coucou.
Salut Jean-Luc.
Hello Chris. Oh là 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 là. Ah, à l'approche des vacances estivales, en cette journée anniversaire de Laetitia de Beaumont, je vous propose un merveilleux départ anticipé pour des vacances au bord de la mer et qui pourrait s'intituler « Dites-moi, mais dites-moi ». Dans ce voyage organisé et conçu par la Michelle, pas de blues, de blues, de blues où l'on fantasmerait de s'allonger sur des fourmis rouges. Non, 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 non. Le rêve tout simple de tout changer, de changer tout. Pour une super nana que l'on pourrait bien sûr qualifier de lumière, de regard, de lumière de ses paupières sur un air de Ray Charles. Je t'aimais tellement fort que je t'aime encore. Comme chez Nougaro, au-delà de nos oripeaux, cette femme que l'on a tous dans la peau pourrait ce soir, en cette douce nuit, s'appeler au clair de la lune, elle, Lucie la Belle, ou la grande, la belle, mon Isabelle. Eh ouais. Lui clamer toute la nuit, pour toi, je passerai ma vie à pousser les wagonnets de la vie. Et nous partirions tous deux, unis vers l'uni, pour que l'univers ne nous la fasse plus à l'envers. Et peut-être pour que nous puissions tout simplement enfin partager et prendre le temps de se dire « C'est probablement un détail, mais je veux pas que tu t'en ailles. » Mais me direz-vous « Où, mais oui, où est le shérif que je l'assomme ?» Certainement parti manger des papayes à papettes dans une boîte de jazz où guettait le Golden Gate. Là où lorsque minuit sonne, on danse le Madison, quand la FM s'est spécialisée funky. Enfin la charmer définitivement d'une émotion brute en lui demandant avec un baiser salé. Dans une forme de naïveté touchante qui aurait la carte de la vulnérabilité d'un Mr. Swing. Mais dis-moi, cœur, où est la source? En résumé, en conclusion, lui passer le seul et l'unique message en descendant les marches de cette boîte de jazz d'une jeune et belle journée passée sans elle et mon cœur serait pendu au bout d'une ficelle. Bonsoir, Michel Jonas.
Bonsoir, Jean-Luc. Merci. Hein. Très joli.
C'est
joli.
C'est un petit résumé.
Un
c'est
petit portrait.
Le petit parcours de ma vie, en fait, que j'ai vécu avec toi, puisque on se tutoie, je suis désolé, c'est le
titre de l'émission. Oui.
Et qui plus est, on se tutoie dans la vie.
C'est vrai.
Je suis très très heureux, je suis touché parce que voilà, on va parcourir un petit peu pas mal de petites choses de ta vie, de la vie, parce que toi aussi tu vas parcourir les routes un petit peu partout et ça nous fait très 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 plaisir de te retrouver sur
moi
les
aussi.
Routes. Tu t'économises pas quand même, hein ?
Mais ça me plaît, donc je le fais avec plaisir, donc ça me donne l'énergie, ça me donne la force quand tu fais des choses parce que t'aimes ça, ça fatigue pas, au contraire,
ouais.
Ça te nourrit, ça te remplit.
C'est la passion qui te remplit de toute
voilà.
Manière, que ce soit le chant ou la comédie, tu es totalement investi.
Oui, et puis je crois que je me suis vraiment programmé pour ça quand j'ai commencé à monter sur une scène et à chanter ou à faire de la musique ou à jouer la comédie parce que j'ai... commencer par ça. Avant de chanter, je prenais des cours d'art dramatique dans une maison de jeunes de Port-de-France. Et je me suis dit, ce plaisir-là que j'ai à chanter ou à jouer la comédie devant les autres, et avec les autres surtout, je ne veux pas le perdre. Et donc, je n'ai jamais perdu ça. C'est-à-dire, je n'ai jamais... tu sais, le danger pour un artiste, c'est la routine.
Bien sûr.
Là, c'est la mort.
Oui.
Là, ça ne te pardonne pas. Si tu fais un jour de la scène parce qu'il faut, parce que c'est la routine, elle ne te pardonne pas.
Et tu vas
le payer cher, d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire, il va y avoir, par exemple, un manque d'enthousiasme, un manque de plaisir, un manque d'enthousiasme. Tu vois, tu sais pas, mais ça, elle t'autorise beaucoup de choses,
bien
la
sûr.
Scène. Elle t'autorise à débuter, par exemple, à faire tes premières armes, mais jamais à ne pas être au maximum de tes possibilités, de tes moyens.
Ces petits cours de théâtre dont tu parles t'ont servi, bien sûr, pour l'interprétation non seulement des chansons, mais également de raconter à chaque fois une histoire entre les chansons au public que tu
c'est
as.
Vrai.
C'est-à-dire que tu nous galvanises quand tu es sur scène. Donc évidemment, la comédie fait partie intégrante de tes spectacles.
Exactement. J'ai jamais voulu perdre ça. Et c'est vrai que je m'écrivais des petits textes entre les chansons pour garder ce lien entre moi et la comédie. J'aime ça.
Et cet intermède, c'est à chaque fois un petit voyage.
Oui.
Et c'est même un grand voyage qu'on va faire avec Michel Jonas, si vous venez de nous rejoindre, sur la route du week-end, sur Nostalgie. Nous t'avons découvert en 1974, parce que pour nous, ça a été la révélation avec Dites-moi. Mmh. Ça a mis combien de temps, juste ? Mmh. Tu as l'histoire de la chanson de Dites-moi, ce déclic des mots qui sont entrechoqués quelque part.
Ça, c'était une de mes premières musiques,
oui.
Mais c'est pas moi qui ai écrit le texte.
D'accord.
C'est Franck Thomas.
Mmh.
Voilà.
Et donc l'histoire de Dites-moi, elle est venue comment, juste, si tu peux...
Ah ben, on travaillait avec Franck Thomas, on a fait, c'était le premier album, hein, 74.
Exactement.
Et on travaillait, j'étais avec mon copain Alain Goldstein, mon ami d'enfance, et Franck Thomas avait fait des textes. Moi, j'en ai fait, je crois, un texte qui s'appelait Fanfan. Et donc, j'avais envie de faire quand même une musique. Il y avait une chanson aussi de Jean-Claude Vanier, Super Nana, et il y a eu Dites-moi, qui était un texte, et c'était la première musique que j'ai fait. C'est pas de moi le texte.
Et la première musique, elle est sur Nostalgie, sur la route du week-end avec Michel Jonas. Allez, on se dit tout, et surtout on se tutoie. Je suis très heureux de t'avoir, hein, tu sais.
Moi aussi, oui.
C'est cool. Quand t'entends ça, souvenir ou pas, t'es pas blasé de celle-là ?
Je ne suis pas blasé de l'entendre, mais je ne la chante plus.
Eh bien, nous, on l'écoute sur Nostalgie.
Elle avait toujours dans son porte-monnaie l'île au trésor et des pièces de 1 franc usées. Un pinceau de poils de
Pourquoi tu la chantes plus ?
Ben, toujours pareil, c'est-à-dire mon premier critère quand je prépare un nouveau spectacle, c'est de savoir qu'est-ce que j'ai envie de chanter.
Ouais.
C'est pas de me dire les gens attendent ça,
parce
que ça pourrait pas marcher. Je peux pas chanter pour faire plaisir. Je peux chanter parce que j'ai envie de chanter telle et telle chanson. Mmh. Et en général, ça fait plaisir aux gens. Et souvent, il y a une coïncidence. C'est-à-dire, il y a des gens qui attendent certaines chansons et que j'ai aussi envie de chanter, comme Super Nana, comme Joueur de Blues, comme Du Blues. T'as cité Je veux pas que tu t'en ailles, ou Je voulais te dire que je t'attends. Toutes ces chansons, je les chante encore aujourd'hui parce que j'aime ça. Dites-moi, voilà, l'envie m'a quitté, elle va peut-être revenir un jour. Hein.
Mmh. Parce que nous, on pleurait là-dessus, hein, tu sais. Enfin, moi, je pleurais là-dessus. J'étais minot, et évidemment, je découvrais les Super Nanas en plus. On découvrait les Super Nanas, ils étaient sur le même album.
Voilà, chanson de Jean-Claude Vanier, que je chante encore aujourd'hui tout le temps. Tu vois.
Celle-là, oui, mais dites-moi.
Celle-là, j'aime toujours la chanter. Dites-moi moins.
Dites-moi moins.
Mais il y en a d'autres que les gens connaissent. Et que tu vois, par exemple, je ne sais pas, Les Vacances au bord de la mer. Texte de Pierre Gross, et j'avais fait la musique, ben voilà, j'ai plus trop envie de la chanter.
Les Vacances au bord de la mer, revenir, hein. C'est l'année d'après Les Vacances.
Alors on regardait les bateaux.
Là, c'est un voyage, on est d'accord. Chaque personne.
Non, mais ça, c'est vraiment ce que j'ai vécu aussi, même si le texte est de Pierre Gross, mais j'ai vraiment vécu cette histoire-là, et souvent les gens m'abordent en me disant c'est exactement ce que j'ai vécu moi. Et c'est-à-dire. Et c'est pas du tout triste, c'est marrant. Il y a des gens qui me disent « Oh là là, je suis ému avec cette chanson. » Mais au contraire, on était...
Ce sont des émotions.
Il n'y a pas de tristesse dans cette chanson.
Ouais. Hein? Mais tout le monde l'a vécu, ça.
Bon, tout le monde l'a vécu. On passait devant les grands hôtels, on passait devant les yachts. Moi, j'adorais me balader. C'était dans le port de Cannes, par exemple. Les îles dont on parle là.
Oui.
Moi, je me souviens très bien des îles de l'Hérens.
Évidemment,
c'est Saint-Honorat,
en face.
Sainte-Marguerite.
Oui.
On prenait le bateau qui partait du port de Cannes. On allait là-bas. On se prenait un sandwich, un pain bagnat.
Pour la journée.
Pour la journée.
Hein? Oui, on se cramait au soleil.
T'as vécu ça aussi ?
Mais évidemment.
Ah oui.
Et puis après, toi, t'as vécu des choses extraordinaires. Là, l'amour prend le dessus, les émotions, le Jonas séducteur. Je voulais te dire, waouh, que je t'attends.
Je voulais te dire que je t'attends.
Et là, on est en plein cœur de la nostalgie. Il y a l'amour qui s'effiloche, entraîné de poudre étincelante. Je trouve que c'est assez merveilleux. Une fois de plus, on voyage avec toi dans ta vie et dans la nôtre en parallèle. C'était à chaque fois.
Oui, mais il faut faire gaffe, hein, parce qu'une chanson, c'est toujours un mélange un petit peu subtil entre l'autobiographie et la fiction. Tu sais, tu peux écrire 15 albums avec une seule histoire d'amour qui peut arriver dans ta vie.
Mais c'est à peu
pas
près...
croire que chaque chanson se rapporte à une période de ma vie. Oui, c'est ce qui se passe.
C'est ce qui se passe. La question est, bien sûr, on a eu tout le monde, les auditeurs, et on s'est demandé, Est-ce que tu l'attends toujours?
Oui, c'est ça. On me le demande des fois.
Bah, évidemment.
Et qui c'est qui t'a quitté vraiment?
Oui.
Et dont t'as souffert, vraiment, c'est terrible.
Ah bah t'as souffert parce que quand même, l'année d'après, je veux pas que tu t'en ailles, tristesse absolue.
Je veux pas que tu t'en ailles.
On est quand même dans la ligne éditoriale jaunassienne. C'est, tu t'imagines à chaque fois, donc évidemment, le service après-vente de « Je veux pas que tu t'en ailles », c'est du blues, évidemment. Du blues.
Qui est une complainte. Le blues est une complainte.
Ouais.
Comme la musique tzigane qui m'a nourri quand j'étais môme. Tu vois, il n'y a pas de hasard.
Django Reinhardt ?
Non, c'était pas trop ça.
Non, parce que c'était quand même jazz manouche.
Je peux te parler de Piaf que j'ai vu sur scène. Ça, c'est une question que je pose chaque soir sur scène. Qui a vu Piaf ? Il y a de moins en moins de gens qui ont vu Piaf sur scène. Hein.
Merci.
Ah, vous rigolez, les... hey, ils rigolent là.
Non, mais parce que,
le mec à la technique.
Non, parce qu'il y en a qui disent qu'il y a de moins en moins de Michel aussi, tu vois ce que je veux dire.
Ah oui, mais.
Non, mais attends, t'es rigolo.
Il y a plus beaucoup de gens qui ont vu.
Excuse-moi, tu l'as vu en quelle année, Piaf?
Bah, je sais pas, je me rappelle plus.
Bah, bah voilà, déjà, tu te rappelles plus, c'est mauvais signe.
Oui, enfin bon, c'est mauvais signe.
Bah, si.
Tiens, Otis Redding non plus, y a, ça, il n'y a pas. Plus beaucoup de gens non plus qui ont vu Otis Redding sur scène.
À propos, si tu peux téléphoner à Otis pour réparer l'ascenseur qui ne marche pas du tout ici, c'est énergé, ce serait sympa.
Ça n'a rien à voir.
Ah, excusez-moi. Tu voyais comme quoi chacun a sa petite culture. Et parlez-moi juste de Piaf, puisque je rebondis sur
Piaf,
ce que tu dis.
Piaf, c'est donc mon père qui un jour m'a pris par la main en me disant « il faut que je t'amène voir quelqu'un ». Et je pense que c'était le premier spectacle de ma vie. Et donc, c'était à l'Olympia et j'ai vu cette petite bonne femme qui... déjà commencé, alors ça peut peut-être donner une idée de la période. Elle commençait à avoir du mal à marcher un petit peu. Très lentement, elle s'est approchée du micro, elle s'est plantée devant le micro avec ses petites robes noires. On avait l'impression qu'elle pouvait s'envoler tellement elle paraissait fragile. Mais la voix qui a rempli cette salle, ça m'a vraiment impressionné, quoi. C'était incroyable. Bien sûr, il y a encore des images, des films, des disques, évidemment. Mais rien ne remplace cette émotion, cette sensation qu'on avait quand on était dans cette salle avec sa voix qui remplissait la salle. J'ai tout de suite fait un lien, si tu veux, avec la musique tzigane hongroise de mes grands-parents, de mes parents. Mm-hmm. Tu vois, de cette déchirure. Et c'est ça que j'ai toujours aimé. Ray Charles, le blues, tu peux faire un lien. Tu vois, même Brel, il y a un lien évident entre Piaf, Ray Charles, le blues, la musique tzigane, le tango, le boléro, tu vois.
Oui, oui, tout voilà. Ça, ben ce oui, sont des mots qui s'entrechoquent et qui swingent.
Voilà.
Mais quelque part, tout le monde se rappelle de son premier concert. Je buvais oui. Tes paroles. Mon premier concert, ça doit être en 72 ou 74, Johnny Hallyday, sous chapiteau, qui s'appelait Johnny Circus ou quelque chose comme ça. Je buvais tes paroles, toi, avec Piaf, et je me remémorais ah ben oui. Johnny Hallyday, tu vois.
Ah ben, les premiers spectacles, c'est vrai. Et puis, je me souviens des Beatles avec Sylvie Vartan, je me souviens.
Sylvie Vartan en première partie des Beatles ou l'inverse?
Non, l'inverse.
Les Beatles c'était première partie de Sylvie Vartan,
ouais.
À l'Olympia.
C'est ça,
ouais.
C'était particulier. Ouais. Et puis surtout, bon, Ray Charles, je l'ai vu 15 fois. Et puis, par exemple, la première fois que James Brown est venu à Paris, on était sidérés, quoi. Le spectacle de James Brown, là... c'était vraiment incroyable.
Ces deux personnes, c'est vraiment des personnes qui t'ont marqué. Juste l'empreinte de Ray Charles, pour toi, elle est forte dans l'intensité, elle est forte où?
Ben, donc moi, j'avais cette admiration pour la chanson française. Mes parents adoraient la chanson française. On écoutait tout le temps la radio, etc. Tu vois ma chemise, il y a plein de radios dessus.
Bien. Ouais, c'est bien pour venir sur
Nostalgie. J'ai pas mis par hasard.
Bah attends, tu rigoles ou quoi? Oui, je vais faire de la radio, et donc, je mets une chemise radio.
Moi, j'adorais la chanson française. Et Brel, que j'ai été voir tous les soirs sur scène, ça aussi, c'est pareil. Beaucoup de gens.
Tous les soirs sur scène?
Ah bah j'allais le voir. Il existait à l'Olympia... un placement qu'on appelait les promes noires. C'est-à-dire, c'était au fond
à côté du pompier ou pas?
Au fond de l'orchestre.
Oui.
Tu payais 5 francs.
Oui.
T'étais debout.
Oui.
Voilà. Et j'allais là, tous les... parce que moi, j'avais pas beaucoup d'argent.
Et il y avait le poulailler tout en haut aussi.
Ah non, mais ça, je te parle pas de ça. Je te parle vraiment à l'orchestre.
Ouais.
Ça s'appelait le promes noires et c'était tout au fond et t'étais debout. Et donc, c'était ce fameux spectacle où il a commencé à chanter Amsterdam.
Oui. Jamais enregistré au
voilà.
Studio.
Et je pense que c'est ce spectacle qui, plus tard, beaucoup plus tard, m'a donné envie de faire un spectacle totalement inédit, où les gens ne connaîtraient pas les chansons à l'avance, et c'était La Fabuleuse Histoire de Mr. Swing. Les gens qui sont venus voir La Fabuleuse Histoire de Mr. Swing à La Cigale, au tout début, il n'y avait pas de disque qui était sorti, puisqu'il n'y a pas de disque studio. Les disques étaient, ont été enregistrés, c'était disque live. Et j'aimais l'idée qu'il y a tout à découvrir.
De l'éphémère d'un seul coup qui arrive.
De tout à découvrir.
Ouais. Et donc le phénomène Ray Charles, et puis après...
Ah, bah Ray Charles, parce que un jour, donc je te, oui, j'ai perdu le fil.
C'est
donc
pas grave.
J'aimais ces gens-là, j'avais cette admiration pour les mots de Brassens, pour l'interprétation de Piaf, pour l'interprétation de Brel, pour Léo Ferré, que j'adorais, etc. Cette grande tradition de la chanson française. Mais à un moment, arrive quand même un son nouveau en France. Le rock'n'roll, la basse, la batterie, la guitare électrique, les machins, les trucs, les chaussettes noires, les chats sauvages, toute cette période. Et là, c'était quand même quelque chose. Et un jour, je suis dans une maison au bord de la mer, je m'en rappelle, avec ma sœur. Tu sais, il y avait des salles de jeux où il y avait des flippers, etc.
Mais évidemment, et des baby-foot.
Et des baby-foot et un jukebox.
Oui, on coup, mettait 20 centimes dedans.
20 centimes, oui. même dans les flippers.
Mais très, 20 centimes. Très, oui, je vois très bien.
Et d'un seul coup, sort de ce jukebox, What I Say. Et ça, j'étais sidéré. Ça a été le choc. Et là, je me suis dit, putain, mais qu'est-ce que c'est ça?
Qu'est-ce que c'est que ce son-là?
Qu'est-ce que c'est que ce son? Et puis sa voix, et puis ce swing, ce groove. Parce que lui, Ray Charles, tu vois, là, j'ai fait un album qui s'appelle Soul. Oui. C'est le père de la soul, Ray Charles. C'est lui qui a fait le lien entre la musique sacrée, profane, entre le gospel, entre la musique de la rue, entre le rhythm and blues, etc. C'est le père de la soul. Et ça, quand j'ai entendu What I Say, j'étais scié. Je pense que c'est ça qui m'a vraiment donné envie de faire de la musique.
Alors effectivement, tu fais bien de parler de cet album Soul qui est sorti l'année dernière. Et cette tournée qui arrive tambour battant, et ben, il va y avoir quand même beaucoup de soul music.
Ah oui,
puisque c'est quand même tes plus grands classiques qui sont un peu revisités. C'est quoi? C'est du soul et du R&B?
Oui, si tu veux, c'est ça. Peu importe la définition qu'on peut lui donner, c'est difficile à définir la soul. On a des références, si tu veux. On se dit que Aretha Franklin était la reine de la soul, Ray Charles le père, Otis Redding le roi de la soul, t'as Marvin Gaye aussi, on disait toujours que même, ben voilà, Marvin Gaye c'est de la soul,
healing.
Et Stevie Wonder, enfin, oui. Tu vois, les mots comptent pas. Voilà.
James Bond, il a apporté une touche spectaculaire à tout ça.
Ah ouais.
C'est-à-dire que d'un seul coup, il sortait d'une boîte de Pandore et c'était...
Mais c'était dingue ce qu'il faisait sur scène.
Ouais.
C'était dingue.
Hein. Il était fou.
Ah, mais...
Mais toi, tu peux pas te comparer à un homme comme ça.
Ah, mais
qu'est-ce
moi,
qui t'a inspiré, puisque c'est
mais
toi
Mais je
qui
fais
en
le
parle.
Grand écart tous les soirs, moi.
Ah ouais, c'est ce que m'a dit ta femme.
Jamais
ouais. C'est un truc de dingue. Et elle m'a dit ça avant-hier soir, et c'était une histoire de fou. Alors, on continue qu'à un cas. En v'là, oui, en v'là du slow, en v'là.
En v'là du slow, en v'là.
Et on va pousser les wagonnets. Les wagonnets, ben bien sûr.
Parlez-vous des wagonnets.
Restez avec moi, vous, là-bas.
Qu'on pousse le verre.
Ah, j'adore ça.
Recharger en
les wagonnets. Les wagonnets. Moi, je faisais les chœurs derrière, tu sais. Les wagonnets. C'était beau, ça.
Ça, c'est une histoire, les wagonnets. On partait des fois en vacances dans les Vosges.
Mm-hmm.
Petite ville qui s'appelle Rambervillers, pour ceux qui connaissent. Mm-hmm. Et j'avais un oncle qui tenait une usine il vernissait les meubles. Et j'allais tout le temps là-bas. J'aimais bien aller le voir. C'est bizarre, j'aimais cette odeur de vernis pour le bois, etc. Et dans la cour de cette usine, il y avait quoi? Des petits rails et des wagonnets. Et je montais dans ces wagonnets et je rêvais, j'imaginais, je me disais, je conduis un train, etc. Donc, c'est ce souvenir-là qui m'a inspiré la chanson.
Mais c'est des madeleines de Proust, de toute
oui,
manière. C'est les petites odeurs de confiture de mamie. Quoi.
Tu sais, une chanson, c'est une page de l'histoire.
On
se dévoile un peu.
De
on raconte de sa propre histoire. Et je pense que c'est pour ça que ça peut toucher les gens, parce que ça peut les ramener à leur propre histoire, à eux, et à révéler des émotions qu'ils ont en eux, des sentiments qu'ils ont en eux. Ça dépend comment ils écoutent. Mmh. Tu ne peux pas écouter qu'avec les oreilles. Si tu écoutes avec le cœur, tu vois, si tu écoutes avec ton âme, etc., ça peut vraiment te toucher. Parce que ce qui compte, tu vois, c'est comme parler à un ami de chanter, en fait. Et quand un ami te parle, mais comment il te parle? Des fois, il va murmurer. Des fois, il va faire des gestes. Il va s'emporter. Je sais pas. Il va prendre un ton, puis ça dépend du moment, etc. Tout ça, c'est la forme. Et c'est exactement pareil dans la musique. la forme, ce qui compte de cet ami qui te parle, c'est ce qu'il veut me dire.
C'est la réception, c'est l'écoute que tu lui apportes.
Et c'est le contenu.
Bien sûr.
Et c'est le contenu.
Oui.
Et c'est pareil pour la musique et pour les chansons. Tu peux faire un disque avec 4 musiciens, puis après avec 8, et puis après avec 16. Mais ce qui compte dans cette grande tradition de la chanson, ce qui compte, c'est le contenu, c'est qu'est-ce que tu dis dans cette chanson-là.
Alors là, ce que tu dis en 1981, là, il y a un côté masochiste total. Quel signe astrologique es-tu ?
Verseau.
Mais ben alors, c'est une histoire de dingue. Tu es Verseau, ascendant maso, pour
coucher... Balance.
Ah ouais, ben alors pour se coucher sur les fourmis rouges, quoi.
Couchons-nous sur les fourmis rouges.
Là, c'est maso.
Pour voir si l'amour est resté.
Donc c'est pas maso ça. On les sent pas les fourmis
pour
rouges
voir
quand.
Si l'un de nous deux bouge.
Mais quand on s'aime, on les sent pas ces fourmis rouges.
C'est toi qui écris ce texte ou pas ?
Oui.
Qu'est-ce que tu as bu ce jour-là ?
Je me souviens plus bien.
Parce que là. Non mais pour voir si l'un de nous deux bouge, c'est un peu, on avait il y a deux semaines ici Alain Souchon, passé notre amour à la machine.
Oui.
On est sur une
c'est
parallèle.
Pareil. Oui, mais c'est pareil, c'est ça qui m'intéresse, moi. Et puis je trouve que c'est émouvant, l'amour. C'est émouvant, l'amour. Là, par exemple, j'ai écrit il n'y a pas très longtemps une chanson qui s'appelle La Maison de Retraite dans le disque, je crois que c'était La Méouge, le Rôle de la Durance. Ben, c'est pareil, c'est-à-dire l'amour qui dure, l'amour qui franchit tous les obstacles, qui n'a pas de fragilité.
C'est pas d'y arriver à cet amour, c'est que cela perdure dans le temps et qu'il soit pérenne.
Bon, ceci dit, ça, je ne sais pas. Ça peut aussi... une très belle histoire d'amour peut s'arrêter. C'est pas ça que ça veut dire. C'est pas forcément... Les grandes histoires d'amour ne sont pas forcément celles qui durent longtemps. Quoique des couples d'un certain âge qui se tiennent par la main dans la rue et qui se baladent, etc., c'est vrai que c'est très émouvant, comme dans cette fameuse chanson de Brel qui s'appelait Les Vieux. C'est très émouvant, mais ça veut rien dire. Non, je pense que c'est une histoire d'intensité.
Les Vieux, elle est triste d'une tristesse. Les Vieux ne parlent plus ou seulement parfois.
Oui, mais ils sont encore ensemble.
Ah oui, c'est vrai.
Et il dit quoi ? Il dit que quand il y en a un qui s'en va, l'autre, c'est plus pareil.
Ça fait
il va pas le quitter.
Tac, il regarde la porte.
Voilà.
Bien sûr.
C'est
et ça
vrai.
Fait, et puis après, ça fait des grands.
Oui, c'est ça.
Et ça fait des grands.
Oui, mais c'est ce qui compte là-dedans, c'est qu'ils sont ensemble, quoi.
Ils sont ensemble.
Et il y en a un qui va, va coûter cher quand l'autre va partir.
Ça, c'est clair. Comme Michel d'ailleurs avec Lucille.
Bah, oui. Lucille.
C'est Lucille, parce qu'à la base, quand même, cette chanson est écrite pour Eddie Mitchell, on me dit, c'est marqué là. Alors moi, tout ce qui est marqué là, je ne le crois pas obligatoirement.
Oui, ça c'est vrai.
Mais pourquoi ? Donc, elle est pour Eddie Mitchell,
oui.
Le grand Claude Moine.
D'abord, c'est une chanson de Little Richard, Lucille.
D'accord.
Hein, si tu connais Little Richard, qui était un grand, grand rocker, il y a une chanson qui s'appelle Lucille. Et d'ailleurs, je le dis dans la chanson.
C'est lui qui avait les Great Balls of Fire, non ? C'est pas
ah
lui,
non, ça non, c'est Jerry Lee Lewis.
Ah oui, Jerry Lee Lewis. Ouais. Mais il avait quand même aussi un
piano, bah lui, il a chanté tous les rock'n'roll. Tutti
ouais.
Frutti, All a Lot of Shaking Going On, Little Richard. C'était, pour moi, c'était le rock'n'roll. Hein.
Oui, le vrai rock'n'roll. Alors, excuse-moi, ouais. Je t'ai coupé par
donc,
rapport
Lucille,
à cette base de Eddie Mitchell.
Eh ben oui. Et donc, d'ailleurs, je parle de la chanson de Little Richard sans dire Little Richard, mais j'allais chanter ce fameux Lucille, ce fameux blues, etc. Et oui, j'ai écrit cette chanson pour Eddie Mitchell. Et plus tard, j'ai eu envie de la chanter moi. Et je me suis rendu compte, j'ai un peu culpabilisé, je l'avoue, mais ce n'est pas de ma faute. Enfin, je ne l'ai pas fait volontairement, je me suis rendu compte qu'il manquait quelque chose. Il manquait le refrain. C'est-à-dire que si vous écoutez la chanson, la version d'Eddie, il n'y a pas le refrain. C'est-à-dire Lucille, 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 n'existe pas. Il n'y a que les couplets. Mais je ne l'ai pas fait volontairement. C'est que je m'en suis rendu compte quand moi j'ai eu envie d'interpréter cette chanson, je me suis rendu compte qu'il me manquait ce petit bout qui est important.
Hein. Ah mais qui est super important. Les petits bouts sont toujours très très importants.
Oui,
je
suis bien
persuadé.
Sûr. Oui, ta femme me le disait.
Merci beaucoup de ce petit aparté
je lui renvoie
qui fait
le truc,
tellement
hein.
Rire mes collègues de travail. On m'appelle Kit Kat dans le métier. Alors, au début, je suis raide dingue des chansons de Michel Jonas. Je dois l'avouer, je suis fou. Et puis, je deviens raide dingue, amoureux de Michel Jonas. Parce que c'est là où, c'est vrai que les radios locales privées, les radios libres, les groupes arrivent en province. Et nous, on est tous à tes côtés, unis vers l'uni.
Un peu parti, un peu nage, descendant...
Univers Luni. Ah ouais, alphabet Univers Luni, parce que c'est, tu sais, c'est ce moment. Ce côté univers l'uni, c'est un spectacle merveilleux, mais là, quand on parlait de voyage tout à l'heure, c'est un énorme voyage pour tout le monde. Je ne sais pas combien de temps a duré cette tournée, j'ai vu ce concert 5 fois. Je le dis bien, j'étais effectivement toulousain, après je suis allé à Montpellier le voir, avec les frères Sims, qui étaient extraordinaires, mais qui étaient bouleversants de sincérité.
Il y avait déjà Manu Katché, il y avait Jean-Luc D'Angelo déjà. Il y avait Camille Rustam à la guitare. C'était une super équipe.
C'était une super équipe. Il y avait une mise en scène de folie. Oui. Tu participais à cette mise en scène?
Bien sûr, je voulais qu'on représente sur scène des planètes. Après, il y a des gens qui le fabriquent. Je voulais des planètes.
Oui.
Mais si tu veux, le truc qui m'a vraiment étonné, c'est que je me suis dit, comment ça se fait que personne n'y a pensé à ça? L'univers.
Bien sûr.
Je me suis dit, c'est pas possible. Il y a quelqu'un d'autre qui a pensé avant moi, c'est pas possible.
Oui.
Univers. Non. J'étais sidéré de me rendre compte que non. Il n'y avait rien eu. Il n'y avait pas eu une chanson. Personne n'avait joué avec ce mot univers.
Oui.
Alors j'étais content. Donc forcément, pour moi, c'était une ambiance où il fallait.
C'était un voyage interplanétaire, oui. Effectivement, avec à l'intérieur de cet album de dingue, effectivement, la boîte de jazz.
Un peu parti, un peu
nage. Oh yeah. Là, c'est tout le monde. Alors là, tu nous as épuisé à danser le rock'n'roll là-dessus. Mais tout le monde, tous les genoux comme nous, faisons.
Ouais.
Monte un peu le son de la boîte de jazz, parce que là, ça. C'est pas un habitué.
Ah non.
Sûrement pas un amoureux de Zig. L'orchestre s'installe.
Des professionnels.
Come on, boy. Et là, on va taper le bœuf ensemble. C'est la boîte de jazz. C'est quoi? C'est le slow club? C'est la huchette? C'est quoi cette époque-là?
Ah bah ça, c'est toute une histoire, la boîte de jazz. J'ai déjà raconté 50 000 fois, mais je peux bien le
raconter. Non, mais fais-la courtement, alors.
Alors, courtement, c'est que j'ai effectivement réussi, c'est ma fierté, à transformer un échec en succès. Parce que ça m'est vraiment arrivé, l'histoire. J'avais entendu parler d'une audition qui se passait dans un club de jazz, je ne me rappelle plus
qui
c'était, où ils cherchaient un pianiste. Mm-hmm. Et moi, je savais faire What I Said et Demain. Ding, 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 ding. Je me suis dit, bon, je vais y aller. Mais je me suis fait jeter.
Oui.
Je me suis fait jeter. Donc, je l'ai raté complètement,
oui.
L'audition.
Oui.
Et donc, je me suis dit, non, ça aurait pu se passer autrement.
Mm.
Je descends, et puis je joue. D'ailleurs, je joue vraiment. C'est moi qui fais le solo d'orgue. J'étais
ding,
assez
fier.
Donc, je me suis imaginé que, voilà, que je descends, et puis que finalement, les mecs sont vachement... impressionné par mon jeu. Ça s'est pas du tout passé comme ça.
Mmh.
J'aurais bien voulu. Et puis, en même temps, bah, oui, ça a été une étape très importante. En même temps, ça a créé une espèce de confusion, parce qu'après, il y a beaucoup de gens qui me parlaient de jazz, qui me disaient, vous êtes attention. Pas du tout. Le jazz n'a pas du tout été mon école. Moi, je viens du rock'n'roll. Quoi.
Ouais.
C'est le rock'n'roll. C'est le Golf Road d'Henri Leproux, c'est les années 60, c'est le blues, etc. Le jazz, je l'écoutais pas. J'ai appris à l'apprécier, après, à l'écouter. Mais ce n'est pas du tout mon école, ce n'est pas cette musique-là. Ceci dit, il y a des gens qui vont dire, oui, mais Ray Charles, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait du blues, il faisait aussi un petit peu de jazz. Enfin,
bien sûr.
Tu vois, donc c'est... Après, tu définis les trucs, tu les enfermes.
Il y a un taux d'adaptabilité, puisque
voilà.
Après le grand virage, évidemment, c'est la FM qui se spécialise funky.
Ouais.
Là, on voyage. C'est la vie en Floride, à Miami, quoi.
Ben oui.
Là, quand même, le taux, il faut s'adapter à ce qui se passe, au temps qui passe, à la musique que tu accroches.
Non.
Parce que là, c'est Cocotier, Plage de Rhin, quand même.
Ah oui.
Mais là, tu nous fais voyager. Je me rappelle très bien du clip. C'était, bien. On voyait tout qui.
Oui, c'est vrai.
Les paysages, c'était quand même assez, assez estival, frais. Mais c'était pas Jonas pour moi. Hein.
Ah bon?
Ouais, mais là... Ça...
J'ai plusieurs facettes.
Mais c'est pour ça que ça nous intéresse. La facette d'après, évidemment, on revient au basique avec un swing de chez Mr. Swing.
Swing, Mr. Swing.
Là, tu reviens en
source. Swing, Mr. Swing.
Ça, il faut que ça swing. Hein, chez,
ah oui.
Chez Michel Jonas, il faut que ça swing. Quoi qu'il arrive.
Bah, c'est-à-dire que j'ai essayé très très modestement de relier mes deux passions, c'est-à-dire la grande tradition, encore une fois, du texte qui a son importance dans la chanson. Et en même temps, qu'est-ce qui m'a donné envie de faire de la musique? Ben non, c'est pas Prince, c'est pas Ferré, c'est Ray Charles, c'est le rock'n'roll, c'est le blues, le rhythm and blues, etc. Donc j'ai toujours voulu, je me suis dit que c'est pas incompatible. On peut faire groover un texte qui a son importance et qui a du contenu. Voilà, j'ai essayé de faire ça.
Et le virage à 360 degrés arrive en 1993, où là, personne ne comprend rien, avec le générique de l'émission Zone Interdite. C'est pas possible.
Pourquoi? On m'a demandé, mais je l'ai fait.
Non mais c'est quand même fantastique. Zone Interdite, ça fait à peu près 59 ans que c'est à la télé, à peu près. Et là, tu fais ce générique et c'est toi dessus?
Oui, c'est moi dessus. Mais ça, et on l'a fait avec Jean-Yves pour l'arrangement. Mais c'est moi parce que, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, tu as remarqué que j'avais aussi fait un autre générique qui était pour Canal+, Cinéma.
Oui.
Et à chaque fois, je me suis appuyé sur des mots. J'ai pas fait une musique. Là, il y a zone interdite, interdite. Cinéma. Donc, j'ai besoin des mots, comme je te le disais.
Ouais.
Voilà.
Alors, les mots et ta démo, elle est quand même assez forte, voire même très très forte, parce que on passe au cinéma. Alors là, c'est une histoire de fou. 80, qu'est-ce qui fait courir David? Elie Chouraki, Tir à vue, Marcangelo, Babel, Gérard Pulicino, oui. Réalisateur de Taratata, le génial. Complice de Nagui pour toujours. Donc là, tu te lances avec Claude Lelouch,
Une journée de tournage avec Claude Lelouch.
Ouais, c'est marqué là, tu vois, pour une fois qu'il y a une bonne info, s'il te plaît. Il y a Lisa de Grimblat, Mariage avec mon fils, il y a la doublure, tu es dans la doublure de Francis Weber, La première étoile. Alors, je crois que tu dois être amoureux de Lucien Jean-Baptiste.
Mais alors, je raconte souvent cette histoire. Lucien Jean-Baptiste,
avant, il est drôle d'abord.
Je l'adore.
Il est très drôle.
On s'aime beaucoup. Et avant qu'il devienne ce réalisateur qu'on connaît maintenant et comédien,
c'est sûr.
Il faisait du merchandising. Du merchandising.
D'accord.
C'est-à-dire, il vendait pour les chanteurs dans les spectacles, tu sais, les t-shirts,
les 45 les briquets, tours, les CD,
les machins, des trucs comme ça.
Oui.
Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, parce qu'il a fait du merchandising pour moi.
D'accord.
Oui, tout à fait.
Il vendait le porte-clés Michel Jonas.
Voilà.
Oui.
Et je pense que ça devait être en 92 pour le spectacle Où est la source.
D'accord.
Au Zénith. Mm-hmm. Et on s'est rencontrés comme ça. On s'est pris de sympathie. Et quand il a décidé de devenir réalisateur et de réaliser son premier
La première
métrage,
étoile, c'est
la
ça
La première étoile, il m'a appelé.
D'accord. Mais après, ça a continué avec Dieu merci. Il a déjà tes yeux.
Oui.
Lucien Jean-Baptiste, il y a eu la deuxième étoile, puisque la première a brillé firmament.
Oui.
Au bout des doigts de Ludovic Bernard, Monsieur Jacques, Les Vétos de Julie Mergoucan, Maison de retraite 2. C'est moins fatigant, plus fatigant. Le cinéma, tu le mets où? Puisque tu es aussi le papin de Monsieur de Maison. Enfin, bon,
le papa, oui, toujours de maison, oui.
Ah oui, c'est une histoire de fou, parce que tu le situes comment les fictions, oui. Évidemment, sur TF1, le cinéma, tu es un touche-à-tout, parce qu'il n'y en a pas beaucoup.
Non, mais comme,
toi.
Je t'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé avec ça. Avant de chanter, mon premier contact avec ce truc bizarre d'être sur une scène devant des gens et de provoquer des choses, des rires ou le visage qui change, tout simplement, c'est avec l'art dramatique que j'ai jamais voulu... perdre. Et je ne trouve pas qu'il y ait une si grande distance entre ces deux-là. À chaque fois, c'est interpréter, comme tu as dit, raconter des histoires, exprimer des histoires, des sentiments. Il faut incarner. À chaque fois, tu chantes une chanson, il faut incarner la chanson. Tu joues un personnage, il faut incarner un personnage. Donc, je ne vois pas une grosse différence. Mais en même temps...
Enfin, émotionnellement, quand tu es sur scène, tu as le rendu immédiat.
Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais c'est autre chose. Et ce qui fait que je m'ennuie jamais dans mon métier parce qu'il est très très varié. Ça c'est mon obsession de pas perdre l'enthousiasme.
Mais
que j'ai
on
de faire
attend
des
beaucoup au cinéma.
Non, mais ça m'ennuie pas.
Ouais.
Je trouve ça assez incroyable l'histoire de tourner. C'est-à-dire par exemple ce moment qui est assez magique où on va, on est là tous ensemble et puis silence, moteur et là d'un seul coup les visages changent. C'est quelques secondes, le comédien se met dans le personnage qu'il doit incarner et un fil subtil, invisible, qui, qui nous relie tous, et d'un seul coup, on va raconter une histoire. Moi, je trouve ça assez fascinant.
Il y avait un grand acteur à ta place il y a quelques semaines qui s'appelle Clovis Cornillac.
Ah ben, je le connais bien.
Et qui disait, entre le moteur et le coupé, ça nous appartient à nous et à personne d'autre.
Tu vois, c'est ça.
C'est exactement ça, ce que tu es en train
de dire. Oui, Clovis Cornillac. D'ailleurs, on a joué les vétos avec lui. Ouais. Oui, je l'aime beaucoup.
D'accord.
Et sa mère est une grande comédienne également. Et donc, c'est exactement ça. Et juste ce moment où on va dire action, c'est-à-dire juste silence moteur, etc., ce moment où d'un seul coup, ça change dans ta tête, et puis hop, on se relie avec les autres, c'est assez magique ce truc-là. C'est ce qui se passe sur la scène, effectivement. S'il n'y a pas ce lien...
À part qu'il y a moteur et il n'y a pas coupé, à part aux applaudissements finaux.
Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que la musique, ce n'est pas simplement une partition, un instrument et des notes à jouer. C'est un lien qui se tisse entre les musiciens. C'est pour ça que, voilà, moi, je suis très heureux d'avoir des gens... C'est pas seulement... On a des admirations communes, quoi.
D'une fidélité absolue,
voilà.
En plus. Alors là, ce sont les mêmes depuis des décennies.
Oui, c'est vrai.
Les D'Angelo, ils sont là, les Manu
On a
Katché.
Commencé pratiquement ensemble, au début des années 80, avec Manu Katché, avec Jean-Yves D'Angelo. On a commencé presque nos carrières ensemble. Hein. Et on est toujours là.
On se tutoie sur Nostalgie.
Avec Jean-Luc Reichmann.
Tous les vendredis soirs, 19h-20h.
Et à tout moment, en podcast, sur l'appli Nostalgie.